Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bugeaud, je reçois aujourd'hui Mélissa Hollande qui vient nous parler de la fondation Dr Clown. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène son sujet, perte, chagrin, guérison et COVID-19. Notre collaborateur Jean-François Plouffe, en début de deuxième demi d'Action Autonomie, vient nous parler pour sa part de pandémie et respect des droits. Tout ça dans le menu de Folie Douce. Cette semaine, on commence en chanson avec Hervé et la chanson s'intitule « Maelstrom ». Bienvenue à Folie Douce.
Vous écoutez Folie Douce, témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission.
J'accueille maintenant mon invité qui est Mélissa Hollande. Merci d'être avec nous.
Merci.
Bonjour.
De l'invitation.
Bienvenue à Folie Douce, effectivement. Vous êtes donc de la Fondation Dr Clown. Vous êtes cofondatrice et co-directrice artistique de la Fondation Dr Clown. On va bien sûr apprendre à mieux connaître cette fondation. Comment on peut la présenter? Comment vous pouvez présenter cette fondation?
La mission de la Fondation Dr Clown, c'est de déployer des clowns thérapeutiques dans les milieux des institutions pour les personnes vulnérables. C'est comme ça qu'on le définit, mais ça inclut les enfants en hôpitaux pédiatriques, aussi les personnes âgées dans les centres de personnes âgées, aussi les adultes en hôpitaux général,
ouais.
Les écoles spécialisées. Récemment, on va aussi en pédopsychiatrie et aussi dans les centres de jeunesse.
Donc, autant pour la santé physique que la santé mentale mm-hmm. des gens, finalement.
Oui.
Quand je regarde la fondation Dr Clown, je pense que les gens ne peuvent pas s'empêcher de penser à Patch Adams, mm-hmm. qui est connu un personnage. Je ne sais pas si c'est celui qui a un peu inventé ça ou peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui, mais disons que ça a fait connaître un peu l'approche, j'imagine, ce genre d'approche-là que vous avez, l'approche un peu ludique, puis d'aller voir les gens, puis de tenter d'amoindrir leurs souffrances.
C'est ça. On peut dire que Patch Adams, c'est un bon modèle. Les gens ont déjà entendu parler de lui. C'est un bon représentant du travail que nous faisons. Lui, c'est un vrai médecin.
Oui.
Et nous, nous sommes des vrais clowns.
Oui, oui.
Donc, c'est ça la différence.
Mais est-ce qu'on décide d'être clown? Est-ce que, dans votre cas, vous êtes clown? Donc, est-ce que vous avez toujours fait ça ou c'est arrivé à un certain moment dans votre vie?
Oui, bien, j'ai fait mes études, un bac en enseignement, mais j'avais étudié aussi en théâtre. Et pour moi, la notion de vouloir performer, mais il fallait qu'il y ait une notion de service derrière ça,
ouais.
Que ça a une bénéfice. Et j'ai étudié à Concordia dans l'art dramatique en éducation, donc pour l'enseignement, etc. Et j'ai bien aimé ça. Mais c'était lors d'un voyage, parce que je vivais en Écosse, que j'ai découvert les Clown Docteurs. Et donc, c'était une compagnie qui commençait à ce moment-là. Et j'avais déjà pris une formation de clown après mes études à l'université. Parce que j'avais entendu parler de cet atelier, et donc je l'ai pris en pensant que c'est la meilleure chose que j'ai jamais vécue. C'était le plus créatif, le plus imaginaire, et je me sentais vraiment...
Comme une révélation un peu.
Oui, puis moi dans ma tête, c'est comme on ne peut pas faire carrière en étant clown, donc j'étais allée pour devenir professeur. Mais en voyageant, c'est ça, en voyant l'annonce, c'était comme un rappel de... Écoute, vous êtes clown.
Ouais.
C'était comme si l'univers m'appelait. Donc, là, j'ai appliqué pour la position, ouais. puis je l'ai eu.
C'est intéressant. Ouais. J'ai regardé un documentaire récemment sur Patch Adams où il disait, c'est un peu dans ces mots-là qu'il disait, il n'y a rien dans la loi ou dans la médecine qui dit qu'il faut qu'on soit sérieux. Puis au contraire, lui, il se disait, après des problèmes de santé mentale qu'il avait vécu, il a décidé à 18 ans, il dit, moi, je vais être heureux, puis il n'y a pas de raison pourquoi on ne pourrait pas essayer de rendre les gens heureux. Mm-hmm. Il y a beaucoup de dons de soi, puis il y a beaucoup d'humanisme dans ce que vous faites, en fait.
Je pense que c'est une des affaires que j'adore le plus dans ce travail. C'est l'effet que c'est vraiment un don de soi d'aller à la rencontre de l'autre. Et c'est pour être en communication avec l'autre, pour tisser des liens et pour amener un brin de légèreté dans des places que normalement ne sont pas très légères. Ils sont par nécessité efficaces, sérieux. Et donc de faire entrer la figure du clown là-dedans,
ouais,
c'est sûr que
la folie, d'une certaine façon. C'est un peu un brin de folie qu'on laisse entrer.
Exactement. Et donc, ça laisse tout le monde pour un instant en respirer, prendre plaisir à juste être dans le moment présent et rire ensemble.
On oublie nos problèmes pour un certain temps. Ça,
oui,
ça peut
puis
faire...
la notion de jeu, la notion d'un peu de légèreté, c'est vrai, on n'a pas besoin d'être si sérieux dans
ouais.
la vie.
La fondation Dr. Clown a été fondée à quel moment? Est-ce que ça remonte à plusieurs années?
Oui, on a été fondée en 2002.
Oui, puis vous faites partie, en fait, vous êtes cofondatrice donc de cette fondation.
Oui.
C'est plusieurs personnes ensemble qui ont décidé
oui,
de
on était,
d'apprendre.
On était quatre, donc deux clowns, un psychologue et une femme d'affaires.
OK, c'est une bonne équipe.
C'est ça que ça prenait, oui.
C'est bien réparti, effectivement. Non, c'est bien. Est-ce que on s'était déjà parlé il y a longtemps, en fait, à l'émission Folie douce, puis j'avais le goût de vous réinviter parce que je trouve que ça évolue. Comment la fondation Dr. Clown a évolué? On s'était parlé dans les années, peut-être un peu plus tôt, dans les années 2000, là, mais comment vous pourriez dire que l'évolution a été faite?
Au début, on a travaillé surtout avec les aînés dans les centres d'hébergement et aussi avec les enfants en hôpitaux pédiatriques. Et je dirais, depuis les dernières 5 ans, on a vraiment eu une expansion dans nos services. En se disant, ça commençait avec les autistes, je pourrais dire, parce qu'on rencontrait les enfants autistes qui étaient à l'hôpital pour des raisons médicales, et que les parents ou le personnel soignant disaient, « Ah, vous avez une façon de rentrer en contact avec eux qui est fascinant, qui est différent de d'autres personnes. » Ils vous laissent rentrer dans leur bulle. Et donc, ça nous a fait réfléchir. Ah, peut-être on pourrait faire un projet pilote avec une école spécialisée avec les autistes. Donc, ça a commencé là. On a fait un projet pilote en même temps à Montréal et à Québec. Et avec des résultats incroyables, il y avait des chercheurs qui nous regardaient, qui notaient les bienfaits
ouais.
au niveau de la gestion d'émotions, au niveau de communication de base. Alors, pour nous, c'était comme, OK. le clown, ça marche ici aussi. OK, est-ce qu'il y a d'autres places? Et c'est là qu'on a commencé à voir au milieu en pédopsychiatrie, justement, en santé mentale, avec les enfants dans les centres jeunesse, et aussi en soins palliatifs, pour les adultes en soins palliatifs. Puis ça fait longtemps aussi qu'on travaille à l'hôpital Jewish, juste avec les adultes.
OK. Et l'approche est très différente. Tu sais, quelqu'un qui est sur le point de mourir, ou en tout cas qui est en soins palliatifs, versus un enfant qui est peut-être des craintes, justement. Donc, vous devez vous-même apprendre puis vous adapter. C'est toujours un défi, mais c'est stimulant pour vous comme clown.
Oui, tout à fait. Chaque personne qu'on rencontre, c'est un nouveau monde. Alors, c'est vraiment grâce à l'ouverture du clown et à la curiosité et le désir de connaître cet être qui est devant nous et de connaître c'est quoi leur mode de communication, c'est quoi, qu'est-ce qui les fait vibrer, c'est quoi leurs intérêts, c'est quoi leur sens d'humour. Donc, d'un bébé de 3 mois qui va giguer en entendant de la musique,
ouais,
à une personne âgée ou avec l'Alzheimer qui a juste envie de toucher nos nez, d'entendre le son ou ouais, de chanter une vieille chanson avec nous. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant de voir la panoplie de personnes, de cultures, d'états.
Oui. Comment, en tant que clown, vous êtes vous-même un clown, puis donc vous avez des interventions auprès des gens. Comment on peut faire en sorte qu'on ne soit pas trop affecté? Parce que c'est pas évident. Tu sais, tous les jours, on a notre personnage de clown, mais j'imagine que ça doit nous toucher beaucoup. Donc, comment on fait pour rester fort et rester... on doit être la personne forte qui aide la personne plus vulnérable.
Je pense que c'est une des forces, l'effet qu'on travaille en duo. Donc, on a toujours notre partenaire de clown avec nous. Et on travaille aussi, on a une formation professionnelle, artistique et psychosociale. Alors, tous nos artistes, ils ont un bagage où est-ce qu'ils comprennent un peu c'est quoi le milieu, c'est quoi la réalité de certains diagnostics.
Ouais.
Et donc, comment rentrer en relation avec ces gens-là? On a un psychologue sur appel. Donc, s'il y a quelque chose qu'on a vécu durant la journée qui était particulièrement difficile, on peut l'appeler. Et on a des groupes de parole régulièrement à chaque mois où est-ce qu'on peut partager entre nous, de dire, là, j'ai vécu quelque chose, ouais, qui était
donc,
était
ça, vraiment difficile. Donc, ça vous est sûrement arrivé d'avoir des moments des fois plus difficiles. Puis,
tout à fait, tout, ouais, à fait. C'est... ça fait partie de la job, mais en même temps, comme on est dans l'ouverture et dans la légèreté, l'enfant ou peu importe, qu'on vit un moment ensemble qui est difficile, eux, ils sont toujours avec le clown. Donc, c'est le personnage de Dr. Fifi avec son partenaire. Et il y a quand même un petit niveau qui est différent, parce que c'est pas avec moi, Mélissa, qui a cette relation, mais avec Dr. Fifi.
Dr. Fifi qui va être...
Oui, c'est ça. Mais en dessous... Il y a quand même l'artiste qui est affecté, la, ouais, personne qui est affectée. Ouais.
Les feedbacks, donc, sont bons. Comment les gens font? Est-ce que c'est des services qui sont gratuits? Est-ce que c'est comme... Et on vous appelle? Comment ça fonctionne?
En ce moment, on est un organisme à but non lucratif. Alors, on cherche des bailleurs de fonds privés qui vont nous appuyer dans certains projets. Alors, c'est des corporations, des dons de fondations et du public général. Et c'est ça, on va faire normalement un partenariat pour dire on aimerait partir un programme ici et trouver quelqu'un qui aimerait nous appuyer, okay, dans cet endroit.
Puis donc, c'est ça, il y a un besoin au niveau d'un hôpital ou d'un centre, puis il y a un partenaire qui est prêt à mettre de l'argent, donc c'est un peu comme ça. Puis avec votre réputation, ben ça fait boule de neige.
C'est ça, exactement.
C'est ça. Quels sont les meilleurs feedbacks que vous avez eus, les meilleurs retours des gens? Est-ce que... Il y a des choses qui vous ont surpris? Est-ce que vous avez vu des... Tu sais, vous disiez tantôt, oui, on voit l'étincelle des fois où on voit le bienfait qu'on fait aux gens. Mais est-ce que vous avez des feedbacks, maintenant, qui vous ont plus marqué?
C'est drôle parce que récemment, on a tourné des petits capsules d'artistes qui racontent des histoires. Alors, il y a un de nos clowns qui a raconté une histoire où est-ce qu'il y avait un monsieur qu'ils avaient visité régulièrement. Et qui était dans une période de déprime, dans un CHSLD. Et quand ils sont apparus à sa porte, ils avaient cogné, ils sont rentrés, puis il a dit « Ah, c'est bien que vous êtes là. Vous êtes la seule raison que je ne me suis pas pitchée par la fenêtre aujourd'hui.
Wow. »
Alors, tu sais, de penser que notre venue, de savoir que parce qu'on est là régulièrement, chaque semaine, Les gens peuvent compter sur notre présence et de bâtir une relation avec eux.
Ça peut avoir sauvé des vies, c'est sûr. Mm-hmm. C'est ça, ce qu'on parle de... Puis c'est drôle que... Est-ce que vous trouvez, c'est ça, qu'on l'intègre assez dans les milieux de santé? Parce qu'on a l'impression que, effectivement, comme j'entendais Patch Adams qui disait ça, tu sais, dans le fond, c'est souvent très sérieux. Puis pourquoi on n'aurait pas le droit d'être un peu... d'amener, tu sais, du bonheur, amener mm-hmm. Un peu de folie, un peu d'humour, ça peut pas nuire dans le rétablissement.
Mm-hmm. Et je pense que c'est... On a peur d'avoir l'air ridicule, d'avoir l'air fou, et donc d'avoir ce moment de rappel que juste parce qu'on rit ensemble ou qu'il y a ce moment de légèreté, c'est comme le clown peut réanimer cette étincelle dans les gens.
Oui. Et pour en savoir plus, justement, sur ce que vous faites, parce que c'est une noble cause, vraiment, puis c'est comme une vocation, finalement. Je suis certain que vous êtes dans ce domaine-là, puis vous le voyez comme ça fait partie de votre vie, puis vous donnez votre vie un peu à cette cause. Comment on peut en savoir plus? J'imagine c'est par le site web, ou êtes-vous sur les réseaux sociaux aussi?
Oui, on est sur les réseaux sociaux, on a un site web, c'est la fondation drclown.ca.
Donc, on a juste à chercher Fondation Dr. Clown puis en savoir plus à ce moment-là. Quelques secondes, donc, pour avant de terminer, est-ce qu'il y aurait un mot que vous voudriez dire? Peut-être docteur, peut-être, comment vous l'appelez, docteur Fifi?
Oui, c'est ça, docteur Fifi.
C'est ça, est-ce que vous changez votre voix quand vous parlez au sujet?
Oui, il faudrait que j'aurais amené mon nez pour le mettre parce que ça m'aide.
Ça vous donne une voix.
Oui, allô? Allô, c'est moi, docteur Fifi? Oui, je suis contente de vous rencontrer.
Et vous devez être très coloré, tu sais, à la radio, vous êtes habillé normalement, mais j'imagine que les clowns, justement, doivent avoir le côté très, très coloré.
En fait, ça, c'est un point important. On est quand même des clowns plus théâtrales.
Oui.
Donc, nos costumes sont quand même sobres. Moi, je suis une étudiante, j'ai des lulus,
okay.
Je suis habillée en écolière.
Un peu comme Fifi Brin d'Acier, je sais pas.
Un peu, oui, mais avec un nez rouge, mais on ne porte pas de gros maquillage.
Non, c'est ça, fait que ça reste plus sobre, mais ça reste sympathique. Bien, merci beaucoup, Mme Hollande, d'avoir été des nôtres, Mélissa Hollande, donc de la Fondation Dr. Clown. Pour en savoir plus, on cherche ça, puis bonne continuation.
Merci.
Et au plaisir de vous reparler.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Brûler y a belle lumière, mais que ça au moins illumine.
Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio.
C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui, ton sujet, perte, chagrin, guérison et COVID-19.
Oui. Parce qu'on sait que ça en cause beaucoup de chagrin.
Ça a causé
et de
beaucoup de choses. Tu y vas faire aujourd'hui encore une fois?
Oui, mais tu vas voir que c'est quand même quelque chose qui est clair puis qui donne toutes sortes d'idées. En fait, c'est pour aider les gens justement qui ont vécu toutes sortes de pertes, qui sont en deuil aussi,
oui.
des proches. Ou, ça peut être en deuil de toutes sortes de choses,
oui,
au fond.
Effectivement.
C'est sur le site qui s'appelle Info Santé Mentale. En anglais, c'est Mental Health and COVID-19. Ça commence en disant « À mesure que la pandémie de la COVID-19 suit son cours, toute la société réfléchit à la construction de la prochaine normalité. » Parallèlement au niveau individuel et collectivement, nous devons composer avec de nombreuses pertes et avec le chagrin qu'elles provoquent. La perte est l'un des plus grands défis à surmonter. Il peut s'agir de la perte d'un proche ou d'un ami, de son emploi, de ses habitudes de vie, de passe-temps ou de toute autre chose dont nous sommes privés. Or, la pandémie est particulièrement terrifiante à ce titre, car elle a généré plusieurs pertes pour bon nombre d'entre nous.
Et comme tu dis, ça, même la perte de la liberté,
ouais.
Là, on la prenait pour acquise, là, si on
ouais.
veut, la liberté, mais c'est sûr que c'est une perte aussi.
Oui. On définit le chagrin comme la façon de réagir à une perte. Le chagrin influe sur les émotions, les pensées, le comportement et même le bien-être physique. Le chagrin se manifeste bien différemment d'une personne à l'autre. Par exemple, il peut provoquer les réactions suivantes, soit la stupeur, l'incrédulité, la confusion, la colère, des problèmes de concentration et de la difficulté à accomplir ses tâches, ou encore des modifications des habitudes alimentaires et des troubles du sommeil, des changements physiques dont des maux de tête, des étourdissements ou des maux d'estomac, de la tristesse et de la nostalgie, des souvenirs et des réflexions sur les pertes matérielles et le décès d'êtres chers et finalement un arrêt des activités habituelles.
Et un peu, des fois, un non-sens. On se dit que c'est un peu injuste. Puis c'est vrai, effectivement,
ouais.
c'est quelque chose qui était un peu hors norme. Là, tu sais pas,
ouais.
C'est un peu comme... c'est révoltant, des fois, pour
ouais.
certaines personnes. Ouais.
Le chagrin est un processus normal et naturel lors d'une perte, mais il peut être très difficile de le surmonter. Notre chagrin se manifeste par le deuil. Le deuil peut s'exprimer de nombreuses façons selon les personnes et même selon les cultures. Parmi les formes courantes de deuil, on a l'expression du chagrin par l'art ou l'écriture, ou par des rituels ou des pratiques religieuses comme la prière. Le chagrin et le deuil peuvent se vivre seuls, en famille et même en groupe. La durée peut varier en fonction du lien que la personne entretenait avec la personne ou la chose perdue. Le chagrin peut être accablant et peut par conséquent nous amener à tenter d'éviter les sentiments qui sont trop forts. Un simple processus de deuil nous aide à graduellement comprendre en profondeur la signification véritable de la personne ou de la chose que nous avons perdue. Nous pouvons ensuite reprendre espoir et retrouver notre motivation. Ainsi, nous pouvons lentement nous réinvestir dans notre vie quotidienne, même si ce n'est pas de la même manière qu'avant. Bien que le chagrin et le deuil soient des réactions normales, ils peuvent perdurer chez certaines personnes et se greffer à des expériences traumatisantes. Il peut s'en suivre des problèmes de santé mentale ou d'utilisation de substances importantes et durables. Si vous êtes envahi par le sentiment de deuil et que vous n'arrivez pas à vous en libérer, on nous conseille de demander l'aide d'un professionnel en santé mentale. On remarque que souvent les articles en psychologie se termine par cette phrase de ouais. demander de l'aide d'un professionnel en santé mentale. Mais c'est vrai, au fond.
Et ça paraît des fois plus compliqué que c'est. Les gens sont un peu perdus, ne savent pas où s'adresser, mais souvent,
ouais.
au coin de la rue, à un CLSC ou
ouais.
à une clinique près de chez soi, on peut avoir de l'aide
ouais.
pour nous référer aussi.
Maintenant, il y a différents types de pertes. Vous avez peut-être subi un ou plusieurs types de pertes en raison de la pandémie de la COVID-19. Voici des exemples des deuils que certains doivent faire à l'heure actuelle. Dans bien des cas, l'incertitude vient compliquer le processus de deuil et il est plus difficile qu'à l'habitude de gérer la perte. Maintenant, le traumatisme actuel et les traumatismes du passé. Il peut être pénible de faire face et de s'adapter aux changements majeurs et subis que la réaction à la pandémie a apporté. Une pareille situation peut causer un traumatisme psychologique chez certains. Le traumatisme peut se manifester de différentes façons et être particulièrement grave chez ceux qui ont déjà vécu un traumatisme. La situation actuelle peut faire ressurgir les sentiments reliés à ce traumatisme.
C'est ça, ça vient brasser quelque chose qui était enfoui. Là, oui. C'est pas trop drôle.
Des fois, depuis très longtemps.
Ouais.
Nous ne savons guère quand la pandémie sera complètement chose du passé. Une telle incertitude peut accroître l'anxiété. Cependant, même si nous ignorons ce qui se passera dans les mois, voire les années à venir, nous pouvons commencer à aller de l'avant. Faire le deuil des pertes attribuables à la COVID-19 ne consiste pas à simplement accepter tout ce qui a changé. Nous devons examiner les sphères de notre vie où nous avons accusé des pertes et tenter de corriger la situation de façon saine.
Oui.
La guérison est un processus propre à chacun. Une personne peut se rétablir très vite, alors que ce sera plus long pour une autre. Et voici quelques suggestions qui vous aideront à amorcer la guérison. Mais j'y reviendrai plus tard dans l'émission.
Oui, on va poursuivre à l'espresso allongé. Donc, notre bonne habitude de commencer un sujet et plus tard dans l'émission, justement, de poursuivre. Donc, le perte, chagrin, guérison et COVID-19. Pas toujours jojo, mais on a de l'espoir avec ce que tu nous amènes, Pierre. Donc, on poursuit ça plus tard à Folie douce.
Chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie douce. Écoutons-les.
Je reçois maintenant Jean-François Plouffe d'Action Autonomie. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Bonjour. Alors aujourd'hui, un sujet que tu nous amènes, c'est pandémie et respect des droits. La pandémie, on n'a pas fini d'en parler. Je pense que c'est un nom qu'on connaissait bien, mais là, je pense qu'on l'a vécu de façon historique depuis mars 2020. Donc comment tu peux débuter ce sujet-là justement?
Ben, en fait, par rapport aux personnes qui vivent avec des diagnostics de santé mentale et qui sont utilisateurs de services en santé mentale, cette pandémie-là, elle a été particulièrement difficile à vivre. Il faut d'abord se rappeler un principe qu'on oublie un peu dans notre société, c'est qu'il existe non seulement des droits individuels, mais des droits collectifs. La collectivité, elle a aussi certains droits et il peut arriver dans des cas exceptionnels, et c'est le cas maintenant, qu'on va altérer un peu, encadrer les droits individuels dans le meilleur intérêt de la collectivité. C'est un peu ça qui s'est passé durant cette pandémie avec cet état d'urgence sanitaire qui a été instauré et qui a limité certaines libertés individuelles auxquelles on était habitué.
Ouais.
Sauf que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des directives claires et il faut qu'on respecte ces directives-là. Et ce qui s'est passé dans le milieu de la santé mentale montréalais, c'est que non seulement on a respecté les directives, mais on est allé au-delà et bien au-delà de ces directives-là, et ça a amené des abus des droits individuels des personnes qui étaient utilisatrices de ces services-là.
Parce que c'est tout à fait normal d'avoir dans une situation d'urgence comme ça, d'urgence jamais vue, en fait, c'est normal d'avoir certains de nos droits, même dans la population générale, ont été bafoués, mais pour une raison de santé. Mais comme tu dis, les gens en ont mis un petit peu trop, là.
Bien, effectivement, on en a mis un peu trop. Je vous ramène à mars 2020. Tout le monde, probablement, a écouté, au moins à une occasion, les points de presse de François Legault et du docteur Arruda, qui nous disaient, surtout au début, là, au moment où on était collectivement un peu dans une espèce d'anxiété, de ne pas connaître ce qui était pour arriver avec ça, ils nous disaient, le virus, il ne vous sautera pas dessus si vous allez à l'extérieur. Là, si vous gardez votre 2 mètres avec tout le monde, il fallait prendre une marche, c'est le printemps, il commence à faire beau, etc. Ça va être bon pour votre santé physique, ça va vous faire faire de l'exercice, ça va être bon pour votre santé mentale aussi, ça va vous faire penser à d'autres choses, ça va vous faire voir autre chose, etc. Ben ça, cette directive, cette permission que les gens avaient de quitter, de sortir, ouais, d'aller prendre une marche, ça existait aussi dans ce qu'on appelle les ressources de type familial ou les ressources intermédiaires, c'est-à-dire des ressources d'hébergement où des personnes, notamment, qui ont des problèmes de santé mentale, où ces personnes-là sont hébergées de façon à pouvoir se réintégrer dans la société à court ou à moyen terme. Donc, il y avait une directive très claire de la santé publique qui disait que pour les personnes vulnérables, c'est-à-dire de 70 ans et plus, en gros, avec certains problèmes de santé, les sorties non essentielles étaient proscrites. Et là, ce que la directive disait, c'était « Toutefois, sont autorisées les visites et les sorties suivantes. Les visites et sorties à des fins humanitaires. » Restait à définir le mot humanitaire, ce qui n'était pas fait. Les visites jugées essentielles pour assurer les réparations et l'entretien, ça va. Et les marches extérieures supervisées. Ouais. Donc, la directive aux responsables de ces ressources d'hébergement-là, c'était d'autoriser des marches extérieures et de les superviser, de s'assurer que les règles sanitaires en vigueur étaient respectées par les personnes. Bien, c'est pas ça qui s'est passé. Les gens ont été entièrement confinés à l'intérieur pendant des semaines et des semaines avec interdiction formelle de sortir même une minute pour aller prendre l'air. Là, il y a des gens qui sont restés 6 et 8 semaines, dans certains cas, enfermés dans leurs ressources d'hébergement. D'autant plus que la directive, elle disait aussi que dans les cas des personnes, et c'est la majorité des gens qui vivent en RTFRI, ces personnes-là qui n'avaient pas 70 ans, qui n'ont pas de problème de santé majeur et donc qui n'étaient pas considérées comme des personnes dites vulnérables au sens de la directive, ces gens-là, on devait leur autoriser des marches extérieures qui étaient supervisées ou non, selon la condition ou la problématique de l'usager. Donc, il y avait une liberté qui était reconnue à ces personnes-là, qui, dans beaucoup, beaucoup de cas, n'a pas été respectée. Nous, on a reçu beaucoup d'appels de gens qui disaient, là, moi, je suis habitué à sortir, à faire des activités, à aller et venir, je suis quand même assez autonome dans ma ressource d'hébergement, etc. Tout d'un coup, là, on m'enferme à l'intérieur, puis je trouve pas ça acceptable, puis je trouve pas ça confortable. Et ils avaient entièrement raison, ces gens-là, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la directive qui ne s'est pas rendue ou est-ce que ce sont les gestionnaires des ressources d'hébergement qui ont dit « c'est trop compliqué d'encadrer des sorties, etc. On va garder tout le monde en dedans, ça va être plus simple. »
Sauf que c'est sûr que pour la santé mentale, je peux même pas m'imaginer de rester des semaines confiné à l'intérieur. Tu sais, écoute, je pense que c'était nécessaire. Là, puis c'était bien que dans les points de presse, on ait parlé de santé mentale parce qu'effectivement, c'était pas juste le côté santé physique. Tu sais, on peut se protéger, se prémunir du virus, mais si notre santé mentale va pas bien, c'est pas mieux, là.
Ben exactement. Et ces personnes-là, nous autres, là, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, ont vécu de l'anxiété par rapport à cet événement-là. Mais les gens qui sont en RTFRI, ils ont déjà des difficultés émotionnelles, on peut dire, là, des défis à relever par rapport à la gestion de leurs émotions puis de leur santé mentale. Ben c'est ceux-là qu'on a choisi pour les mettre dans une situation encore pire, encore plus angoissante et encore plus contraignante que le restant de la population, alors que c'est à eux qu'on aurait dû faire particulièrement attention puis leur dire peut-être que même si tu comprends pas et que tu respectes pas à 100% toutes les directives, ben au moins on va aller prendre une marche, ça va te changer les idées, ça va te faire baisser de la pression, puis ça va te faire continuer d'aller bien, parce que le rôle de ces ressources-là, ce n'est pas de faire que les gens vont moins bien, c'est de faire que les gens vont mieux. Et là, ben, il y a beaucoup, beaucoup de gens dont l'état mental et l'état émotionnel s'est beaucoup, beaucoup dégradé au cours de ces événements-là.
Est-ce que c'est pas une raison, mais c'est pas une excuse, mais est-ce que c'est le manque de personnel? Parce que ça, comme on dit, ça vient peut-être difficile à gérer de dire on veut sortir, mais on sort pas avec tout le monde, parce que justement, il faut garder des distances entre chacun. Peut-être que ça devenait un gros casse-tête, là.
Ça devenait peut-être un gros casse-tête, mais les personnes qui gèrent ces ressources-là, elles sont supposées être capables de les gérer et être capables de se conformer aux directives qu'on leur donne. Donc, dans ce domaine-là, comme dans d'autres, on peut pas évoquer le fait qu'on n'a pas qu'on n'a pas de nombre d'employés. Il n'y a rien qui nous indique que dans la majorité des cas, les employés permanents, réguliers de ces ressources-là n'étaient pas en place. Il n'y avait généralement pas d'éclosion de COVID-19 dans ces milieux-là. Donc, il n'y avait pas de personnes malades dans la grande majorité des cas. Donc, de notre point de vue, la responsabilité des gestionnaires de ces ressources-là était de faire en sorte, comme ils le font à l'année longue, ou comme ils sont supposés le faire à l'année longue, de préserver et d'améliorer l'état mental des personnes qui vivent sous leur toit. C'est ça le mandat qui leur est donné. Et là, ben, non seulement ils n'ont pas rempli ce mandat-là, mais ils ont empiré la situation pour beaucoup de gens. Donc, il y a vraiment, de notre point de vue, là, un gros problème, et il va falloir que quelqu'un soit redevable de cette situation-là, parce que c'est une situation dont on a très peu parlé et qui a fait beaucoup, beaucoup de dégâts et qui va peut-être en faire encore dans l'avenir.
Oui, il va y avoir certainement des post-mortems, parce que à quelque part, on peut penser malheureusement qu'il va y avoir énormément de problèmes à long terme au niveau de la santé mentale. On mesure probablement pas encore là, ce qui pourrait arriver. Malheureusement, j'espère que ça arrivera pas, mais on a peut-être beaucoup de problèmes à venir.
Oui, effectivement. Et la situation, elle était encore pire dans les hôpitaux. Ouais. On sait que dans les hôpitaux, la directive de la santé publique était claire. On disait, il n'y a pas de visite et il n'y a pas de sortie dans les hôpitaux. Sauf qu'on sait qu'une personne qui rentre à l'hôpital pour un problème de santé physique, depuis le virage ambulatoire, là, depuis 20 ans, les séjours dans les hôpitaux sont généralement assez courts. C'est des séjours maximum de 3, 4, 5 jours. Donc, ça se peut que pendant ce temps-là, quand on relève d'une opération, etc., on n'ait pas le goût de sortir, puis là, ben, on n'a pas le droit de recevoir de la visite. Ça peut s'endurer, mettons. Sauf que, en santé mentale, en psychiatrie, nous, on a eu une indication, elle est faite que la durée moyenne d'hospitalisation pour une personne en psychiatrie, c'est 41 jours. Donc là, 41 jours sans pouvoir sortir du tout. Puis eux autres, la consigne était, on ne sort pas, on ne sort absolument pas. Donc, eux autres aussi, ils ont été pris dans cette situation-là pendant encore plus longtemps. Là, ça s'est rendu jusqu'au mois de juin où les gens n'ont pas pu sortir des hôpitaux, ils n'ont pas pu recevoir de visite. À partir du mois de mai, on leur a autorisé quelque chose comme 20 minutes de sortie dans une cour intérieure 3 fois par semaine. Mm-hmm. Ben ça, c'est moins qu'en prison. En prison, les normes minimales en milieu carcéral pour des gens qui ont commis des crimes, c'est 1 heure par jour à l'extérieur. Là, c'était 20 minutes 3 fois par semaine. Donc, ces gens-là ont été traités pire que s'ils avaient été prisonniers. Or, ils ont été hospitalisés et on les avait hospitalisés pour les soigner. Mm-hmm. Et on a très probablement, dans plusieurs cas, fait monter de beaucoup leur anxiété et détériorer leur état mental. Puis il y a probablement des gens, particulièrement des gens qui étaient dans des unités de psychiatrie qui servaient spécifiquement à ça, de leur donner des outils pour réintégrer la société. Des gens qui étaient un peu en fin de thérapie là, et qui restaient encore quelques semaines ou quelques mois pour se trouver un logement, pour apprendre à gérer leur budget, etc. Ben, ces gens-là, de la même façon que les autres, ont été complètement coupés du monde pendant de nombreuses semaines et ils ont très probablement régressé dans les apprentissages qu'ils avaient acquis dans les mois qui précédaient.
Oui. Et Jean-François, tu disais tantôt que vous avez reçu à Action Autonomie beaucoup d'appels, effectivement, oui. Parce que les gens ne savent plus trop. C'est une situation jamais vue, mais en même temps, il faut trouver peut-être des gens créatifs qui vont s'activer sur le moment pour pouvoir régler des situations et non pas rendre les gens plus malades.
Bien, c'est ça. Puis nous, on avait, évidemment, on avait certaines contraintes, nous aussi. On était en télétravail, etc. Il y a beaucoup de membres des familles qui nous ont appelés, qui nous disaient, moi, je suis habitué d'aller voir mon fils toutes les semaines, puis ça l'aide à aller mieux, puis quand il ne me voit pas, il devient anxieux, il se demande si je l'ai abandonné, ouais. etc., etc. Donc ça, on a beaucoup eu des cas comme celui-là et il n'y a eu aucune compréhension. Là. Quand on parlait de visite à des fins humanitaires, ouais. À notre connaissance, il n'y en a à peu près pas eu pendant les 3 mois, mars, avril, mai, juin, presque 4 mois, il n'y en a pas eu de ces visites-là, sous prétexte que, évidemment, il y avait des impératifs sanitaires. Ouais. Mais là, encore une fois, la directive prévoyait que dans certains cas humanitaires, il devait y avoir des visites. Et ces visites-là n'ont pas eu lieu. Ouais. On ne s'est pas posé la question dans quelle mesure la visite était à des fins humanitaires ou pas. On l'a simplement interdite. Donc, il y a eu énormément de difficultés. Puis l'autre dernier problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait un climat général anxiogène, d'urgence. Et quand on est dans un état d'urgence, ben on n'est pas porté à se plaindre puis à revendiquer pour nos droits individuels. Donc, il y a quand même des gens qui nous ont appelés. Il y a certains employés du réseau de la santé mentale qui ont dénoncé des situations qu'ils ont vues aussi. Mais les personnes elles-mêmes étaient placées dans une espèce d'ambiance où c'était pas propice à revendiquer des choses puis à poser des questions. Ouais. Là, on se disait, ben tout le monde est pris dans une situation d'urgence. Je vais me taire puis je vais subir.
En terminant, Jean-François, on va y revenir hein, dans une prochaine émission. On va poursuivre sur le sujet, mais j'aimerais ça que tu nous mentionnes les coordonnées d'Action Autonomie.
Oui. Alors, Action Autonomie, c'est toujours les mêmes coordonnées. On est au 514-525-5060 au téléphone et notre site Internet est le www.actionautonomie.qc.ca.
Jean-François Plouffe, donc chargé de dossiers de communication à Action Autonomie. Merci beaucoup et à une prochaine émission pour poursuivre sur pandémie et le respect des droits. Merci.
Merci à vous.
Au revoir.
La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie Douce.
De retour au micro avec l'espresso allongé et le sujet que tu as entamé plus tôt, Pierre, perte, chagrin, guérison et COVID-19.
Oui, c'est le titre d'un article que j'ai trouvé sur Internet. C'est sur le site infosantémentale/, Mental Health and COVID-19. Donc, c'est un site bilingue. Il n'y a pas d'auteur en particulier, mais on donne toutes sortes d'idées pour aider à combattre nos émotions difficiles.
Il faut faire ça parce que définitivement, les dommages sont dommages collatéraux là, sont là, c'est sûr.
Oui, c'est difficile pour tout le monde. Alors, on propose, on nous dit, voici quelques suggestions qui vous aideront à amorcer la guérison.
Oui.
Si on veut. Alors, premièrement, on nous dit d'identifier nos difficultés. Le fait de nommer les problèmes auxquels vous êtes confrontés peut vous aider à mieux comprendre pourquoi vous vivez autant de stress. Tentez de déterminer 5 choses que vous trouvez difficiles et placez-les par ordre croissant en commençant par la moins difficile. Choisissez un enjeu auquel vous pourrez vous attaquer d'abord, puis décomposez-le en éléments qu'il sera plus facile de régler un après l'autre.
Donc, par écrit, si tu veux, de les mettre clairement ou les mettre clairement dans sa tête.
Ça peut être dans sa tête, j'imagine, ou sur un papier.
Mais 5 éléments, là, 5 choses qui, qui nous embêtent ou qui nous stressent.
Vraiment dit, si tu manges du pâté chinois, c'est plus facile avec des petites bouchées à la fois.
Par exemple, oui, c'est ça.
Deuxièmement, on nous dit « Vivez au jour le jour
ouais. ».
Il peut être stupéfiant de penser à tous les changements et pertes occasionnées par la pandémie. Si vous vous inquiétez sans cesse de la situation et vous vous demandez constamment si les choses vont s'améliorer un jour, votre humeur, votre niveau de stress et votre motivation s'en ressentiront. En vous efforçant de prendre les problèmes un à la fois, vous pourrez répartir votre gros problème en plusieurs petits problèmes qui ne vous sembleront pas aussi insurmontables. Troisièmement, on nous dit « Prenez d'abord soin de vous ». À l'heure actuelle, bien des gens se concentrent sur le bien-être des autres, et ce, dans leur vie personnelle autant que professionnelle. Dans le contexte actuel, il est facile de s'oublier. Tentez toutefois de prendre soin de vous en premier lieu et demandez-vous chaque jour si vous avez pris le temps de voir à votre équilibre ainsi qu'à votre santé mentale et physique.
Parce que c'est peut-être ça qu'on oublie en premier, tu sais, dans le fond. C'est pour ça qu'on dit s'en occuper de soi-même. Bien, c'est ça qu'on a tendance à laisser de côté.
Oui, hein? C'est vrai. Ouais. Mais oui, parce que des fois, je me dis, si nous autres, on se met à tomber aussi, on ne pourra pas aider les autres.
Non, c'est ça. Faut se garder du temps pour soi aussi, oui.
On nous dit pour certaines personnes, il peut s'agir de lire, d'écrire ou de pratiquer à nouveau un passe-temps agréable. Pour d'autres, il peut s'agir de rester en contact avec la famille et les amis. Assurez-vous de prendre conscience de vos besoins physiques et mentaux pour garder les pieds sur terre et veillez à les prendre en compte dans vos activités quotidiennes.
Je trouve aussi que les gens, tu sais, les gens à travers les époques ont traversé des crises, des choses comme ça. Fait qu'il faut toujours se dire qu'il n'y a rien d'éternel. Tu sais, à un moment donné, les choses finissent par s'arranger. Fait qu'il faut garder un espoir. Il y a une fin à tout. Finalement, ça peut être plus ou moins long, mais ça peut être difficile. Mais faut pas garder, faut pas perdre espoir.
Oui, on nous dit aussi, faites de l'exercice et mangez sainement. L'activité physique est bénéfique pour la santé physique et mentale, particulièrement durant une période stressante. Adaptez votre programme d'exercice aux capacités de votre corps. Vous pourriez marcher, courir, faire du vélo, du yoga ou des étirements ou suivre des cours d'activité physique en ligne. Par ailleurs, optez pour un régime alimentaire sain et équilibré pour que votre corps profite de toute l'énergie et de toute la nourriture dont il a besoin pour maintenir une bonne santé mentale et physique. D'accord
ben
avec
oui,
ça?
Tout à fait. Ben oui. Ça, c'est toujours bon.
On nous dit « parler à quelqu'un ». Parlez à vos amis ou aux membres de votre famille et demandez-leur du soutien. Informez-les de ce que vous vivez et faites-leur part de vos besoins. Si vous ne vous sentez pas mieux, consultez votre médecin. La pandémie reliée au coronavirus, la fameuse COVID-19, constitue une réalité particulière et inhabituelle. En effet, il est impossible de prévoir avec exactitude quelle personne de notre entourage serait contaminée ou non et qui en guérira. Bien que la plupart des personnes atteintes de la COVID-19 se rétablissent par elles-mêmes, il peut toutefois arriver, dans certains cas, que la maladie entraîne le décès d'une personne ayant contracté la maladie. Celle-ci peut malheureusement être une personne qui nous est chère. Malgré les incertitudes et les pertes qu'une pandémie peut occasionner, une telle situation fait appel aux capacités d'adaptation et d'organisation des individus, des familles, de la communauté et de l'ensemble de la société. Elle sollicite particulièrement l'entraide et la solidarité lorsque tout danger de contamination est écarté.
Oui, ça c'est sûr. Ça faut juste pas l'oublier, tu sais, ce qu'on a bâti comme solidarité puis comme entraide, j'espère que ça va demeurer dans les années
c'est
à venir.
Vrai. Hein. C'est vrai, parce que dans la misère, souvent, on se fait des nouveaux amis.
Il y a de l'entraide.
Des liens, même en temps de guerre aussi.
Oui, ça s'est fait aussi, c'est ça.
Donc, faire le deuil d'une personne est une réalité de la vie qui peut parfois être très éprouvante. Dans un contexte de pandémie, il importe tout d'abord de répondre à ses propres besoins et à ceux de ses proches, de réorganiser le quotidien et d'assurer sa sécurité et d'essayer le plus possible de maintenir un minimum d'activité quotidienne.
En terminant, peut-être Pierre, peut-être rappeler les gens qui voudraient relire ou aller chercher de l'information supplémentaire, où est-ce qu'ils peuvent aller sur Internet?
Oui, mais ça s'appelle « Perte, chagrin, guérison et COVID-19 ». C'est sur le site qui s'appelle Info Santé. En anglais, ça s'appelle « Mental Health and COVID-19 », si on veut.
Oui, merci beaucoup, Pierre, pour cette chronique. Donc, à Folie Douce.
Le bras est levé sur la boîte aux lettres. J'avais peur qu'on soit tombé dans une crête. T'es rendu dans tes trous. Je t'envoie le manteau. Tu roules à chou. Le détudiant ou l'autre. Y avait-tu pas un docteur? Puis étais-tu pas beau? Il sait que c'est juste moi pis ta sœur. Tu connais ton. Le poêle travaille double time. J'ai fait du pain pis des galettes. Watch-tu encore, Colin? As-tu continué ta diète? Ils appellent encore à la maison. C'est le temps, tu payes tes billes. Demande plus à Muméo pour t'acheter du chérie.
Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce. Pierre, on va faire la nomenclature des chansons qu'on a entendues aujourd'hui dans notre rendez-vous. On a écouté la chanson en début d'émission Maelstrom.
Oui, de Hervé.
Oui, on a écouté un petit peu plus tard Tout feu, tout flamme.
De Damien Robitaille.
Dans la deuxième demi, Lumière et diamant.
De Mara Tremblay.
Et à l'instant, Same old, same old.
Et Hey Babies.
Merci beaucoup pour ton choix musical. Et merci pour ta mise en onde.
Bienvenue, mon cher.
Tu nous as présenté à tes blocs espresso et allongés le sujet perte, chagrin, guérison et COVID-19. Très important. Il n'y a pas tant de ressources, puis il n'y a pas tant de trucs, puis pour les gens justement qui sont un peu perdus dans toute cette aventure.
Oui, ça donne un peu de conseils, un petit peu d'espoir.
Oui, il faut encourager les gens. C'est vraiment pas facile, là, cette situation-là qu'on vit depuis déjà longtemps. Donc, je remercie également notre invitée Mélissa Hollande qui nous a mieux fait connaître la Fondation Dr Clown. Notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie nous a parlé de pandémie et respect des droits. C'était donc le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.